Les nouveaux coordonnateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS en sigle, Emmanuel Tommy Tamboué Ushindi, a pris ses fonctions mardi 17 août à Kinshasa. La cérémonie de remise et reprise avec les sortants s'est déroulée en présence d'un délégué de la présidence de la République et des ministres de la Défense et du Plan. Prenant la parole à cette occasion, Emmanuel Tommy Tamboué Ushindi a tenu à préciser que, contrairement au passé, le DDRCS est un programme communautaire et non militaire. Son objectif est d'insérer les ex-combattants dans la communauté. Les nouveaux coordonnateurs du programme DDRCS demandent à la population de lui faire confiance tout en promettant de restaurer la paix, gage du développement avec l'appui de tout le monde. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour les nouveaux coordonnateurs du programme DDRCS afin que ces processus soient une réussite? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons M. Tommy Tamboué Ushindi, il est coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS en sigle. Bonsoir M. Tommy Tamboué Ushindi.
Bonsoir M. Dimaté.
Diedonné Lossa, il est coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Bonsoir M. Diedonné Lossa.
Bonsoir.
Et professeur Casimir Ngoumbi, il est politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngoumbi.
Bonsoir et mes salutations à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, les nouveaux coordonnateurs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS en sigle a pris ses fonctions ce mardi. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée en présence d'un délégué de la présidence de la République et des ministres de la Défense et du Plan. Prenant la parole à cette occasion, Emmanuel Tommy Tamboué Ushindi a tenu à préciser que, contrairement au passé, le DDRCS est un programme communautaire et non militaire. Son objectif est d'insérer les ex-combattants dans la communauté. Il demande à la population de lui faire confiance tout en promettant de restaurer la paix, gage du développement avec l'appui de tout le monde. On écoute Emmanuel Tamboué Ushindi dans ses propos recueillis par Michel Loutete.
Nous attendons ici engager le dialogue avec toutes les couches de la population. Engager le dialogue avec toutes les tribus, mais également amener les populations à partir du village, groupement, secteur, territoire, avoir une paix, sécurité et amorcer le véritable développement. La population doit nous faire confiance parce que nous sommes en train de travailler sur les piliers majeurs qui sont tellement différents des piliers qui ont existé, notamment le DDR1, le DDR2, le DDR que nous avons. Donc nous sommes en train de travailler sur la paix, la sécurité et le développement. Ce sont là les piliers majeurs de notre programme.
Emmanuel Tommy Tamboué, je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS en sigle. Et nous vous recevons dans ce studio de Radio Capi. L'émission de ce soir est une émission pédagogique. D'abord, qu'est-ce que l'on peut retenir par mécanisme DDRCS?
Oui, merci beaucoup. Il a plu au chef de l'État et le gouvernement de pouvoir concevoir un programme qui reflète réellement leur vision en rapport avec la paix, la sécurité et le développement communautaire dans les provinces de l'Est de la RDC. Alors, ils ont pensé qu'il ne faudrait plus combiner les aspects qui étaient jadis utilisés, les concepts utilisés dans les temps, mais qu'il faut voir de quelle manière, comme nous disons toujours, de manière intégrée, la stabilisation, la sécurité et la paix, le mettre dans un même programme. C'est ainsi que vous voyez, il y a eu remise et reprise avec des structures. La première structure s'appelait STAREC. C'était une structure de stabilisation des zones de post-conflit à l'est de la RDC. La deuxième structure, c'est la structure UEPN-DDR, comme on dit, le DDR, le désarmement, démobilisation des groupes armés. Mais aujourd'hui, on a fusionné, et donc aujourd'hui, nous avons un nouveau programme qui s'appelle Programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation.
Et pas réinsertion communautaire, comme ça se disait à l'époque. C'est plutôt relèvement communautaire.
C'est relèvement communautaire.
Merci.
Peut-être que j'aurai l'occasion d'expliquer chaque concept.
Merci. Dans votre interview, vous avez précisé que, contrairement au passé, le DDRCS est un programme communautaire et non militaire, et que son objectif est d'insérer les ex-combattants dans la communauté. Monsieur Tommy Tambwe-Ushindi, un combattant, un homme habitué à manipuler les armes à feu, un homme considéré comme étant un tueur, un homme qui a eu à insécuriser la population, qui a eu à déstabiliser, n'est-ce pas, la population d'une communauté donnée. N'est-ce pas que sa réinsertion dans une communauté doit être conditionnée par certains préalables, notamment arriver à les faire accepter par cette communauté et aussi à l'aider, lui, le combattant, et à comprendre qu'il doit se départir de certaines habitudes, de certains réflexes qui ne peuvent pas être tolérés, n'est-ce pas, dans la communauté où il est appelé à être inséré, et ce qui n'est pas toujours facile. Comment allez-vous procéder?
Bien, merci beaucoup. Je voudrais donner brièvement les segments qui constituent le programme pour mieux comprendre comment ça va fonctionner. Le premier segment du programme, c'est la recherche de la cohésion sociale. Donc, dans les études, les leçons tirées des recherches, des analyses sur terrain, ont prouvé que les groupes armés viennent des tribus. Et donc, il y a aussi l'aspect des conflits intercommunautaires qui sont, d'une part ou d'une autre, à l'origine de groupes armés. Et nous avons dit que dans ce segment, il faut rechercher la cohésion sociale par le dialogue et le rapprochement des communautés. Le deuxième segment, c'est effectivement comme nous savons que les groupes armés viennent de ces communautés, nous avons dit qu'il faut procéder à l'opération ou au sous-programme de désarmement, de démobilisation, en tirant les leçons des anciens programmes qui ont existé. Et ici, nous disons qu'il faut les insérer dans la vie civile au sein de leur communauté et non dans l'armée. Le troisième segment, c'est le relèvement communautaire. Nous attendons ici un ensemble de mécanismes qui va permettre de restaurer la confiance et rendre l'espoir aux communautés qui sont restées longtemps dans la détresse, dans la pauvreté. Je veux dire ici, les villages, le groupement, les secteurs, jusqu'au territoire. Et concrètement, il s'agit de répondre aux besoins sociaux de base qui sont essentiels. Dans le village, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des routes de dessertes agricoles, ils ont besoin des centres de santé. Et nous disons cela dans les relèvements communautaires que nous parlons de retour, de déplacés et des questions de femmes et de la jeunesse. Le quatrième segment que nous avons trouvé, c'est la question maintenant de la stabilité.
Voilà, beaucoup d'experts soutiennent que l'une des conditions pour que le DDRCS réussisse, c'est l'accompagnement effectif du gouvernement et la mise à sa disposition, donc à votre disposition, d'un budget conséquent. Et pensez-vous que ces conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on espère que votre mission va réussir?
Oui,
l'accompagnement du gouvernement est un budget considérable et conséquent.
Les leçons tirées des DDR passés ont prouvé qu'au-delà des volontés des écrits, il y a une volonté politique qui a manqué. Parce que la réussite du DDRC et de ce programme dépend de la volonté politique. Or, aujourd'hui, nous pouvons être fiers que nous avons trouvé dans ce programme, les géniteurs de ce programme, il est résolument engagé. Lorsqu'il nous a reçu, le chef de l'État, je vais parler, et même le Premier ministre, lorsqu'ils nous ont reçu, la première des choses, ils nous ont rassurés que ça fait partie de leur programme de gouvernement et ça fait partie de leur vision. La vision du chef de l'État, c'est lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, après avoir été avec lui, après avoir parlé longuement sur le programme et les attentes multiples de la population, nous sommes convaincus parce qu'il a dit, il s'engage, et c'est lui-même, le président de la République, qui est le président du comité de pilotage, un élément très important. Deuxième élément important, le premier ministre chef du gouvernement est le vice-président du comité de pilotage de ce programme. Donc, nous n'avons plus besoin de douter et de dire est-ce que ça va être exécuté, parce que les deux, c'est eux qui pilotent le programme. Nous, nous ne sommes que les exécutants. Nous sommes là pour la mise en œuvre.
Des milliers d'ex-rebelles se sont déjà rendus en Ituri avec les ex-FRPI au nord Kivu et au sud Kivu. Et il ne faut qu'attendre une prise en charge de l'État congolais. Ne pensez-vous pas qu'il faille commencer par vous occuper de ceux-là qui ont déjà déposé les armes, qui attendent, hein, avant de vous pencher sur d'autres miliciens qui seraient disposés à déposer les armes?
Bien sûr.
Parce qu'ils sont nombreux à travers les pays.
Tout à fait. Mais nous avons des instructions claires. Nous ne pouvons pas attaquer tous les pays au même moment, compte tenu de ressources qui sont limitées. Nous avons reçu les instructions très claires de commencer par trois provinces. D'abord, les deux provinces sous état de siège, je veux dire ici l'Ituri, le Nord Kivu. Et comme le Nord Kivu est attaché intimement au Sud Kivu, le président du comité de pilotage a estimé qu'il faut aussi associer le Sud Kivu. Ce qui fait que nous avons trois provinces pilotes déjà. Et nous allons commencer, comme vous l'avez dit, avec ceux qui sont là. D'autres vont venir, mais nous allons commencer par le processus qui a déjà commencé depuis longtemps.
Voilà. L'autre défi, c'est vous-même, hein, M. Tommy Tamboué. Il y a cette levée de bouclier de la part de la société civile lorsque l'on a annoncé votre nomination. Comment allez-vous faire pour gagner la confiance de ces personnes qui sont pourtant vos partenaires classiques?
Bon, moi je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que j'ai eu à l'expliquer à plusieurs émissions, même sur Radio Okapi et à d'autres occasions. Je veux dire tout simplement que ma nomination ne vient pas du hasard. Il y a eu appel de candidature, il y a eu des recrutements. Les gens ont déposé des dossiers, ils sont passés aux interviews. J'étais parmi, et nous avons été sélectionnés à 5. Nous sommes passés encore une fois au deuxième interview et j'ai été retenu. Je comprends qu'il y a des compatriotes qui souhaitaient animer cette structure, mais du fait qu'ils ont soit éliminé, soit qu'ils ont été, n'ont pas été sélectionnés, c'est la frustration. Et je peux vous dire ici que ce ne sont pas toutes les sociétés civiles, parce que la société civile elle-même, elle est multiforme.
Alors, comment comptez-vous faire pour que vous puissiez, n'est-ce pas, amener ces gens qui vous ont contesté à pouvoir vous accepter et à vous accompagner dans cette mission qui n'est pas facile?
Le programme est un programme de communauté. Je vous déclare ici, sous votre micro, que nous allons impliquer toutes les structures et toutes les générations, en commençant par tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de paix, de sécurité et de développement. Nous avons même reçu des instructions. Nous allons associer les députés nationaux, les députés provinciaux. Nous allons travailler avec le gouverneur. Nous allons travailler avec la société civile. Nous allons travailler avec les ONG locales et nationales. Nous allons travailler avec les confessions religieuses. Nous allons travailler avec les chefs coutumiers.
Tous les leaders d'opinion.
Tous les leaders d'opinion.
Merci. Nous allons travailler avec eux. Merci, nous allons vous redonner la parole. Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour les nouveaux coordonnateurs du programme DDRCS?
Oui, nous saluons les co-débatteurs, entre autres le coordonnateur national de PDDRCS, ainsi que le professeur Casimir, et sans oublier tous les auditeurs qui nous suivent. Nous, comme la société civile de l'Ituri, nous commençons d'abord à remercier le chef de l'État pour avoir mis à place cette structure qui traînait et que nous avons tant réclamé. Et nous l'avions réclamé parce que nous nous disions que à côté des opérations militaires, on doit aussi donner l'ouverture pour que ceux qui veulent se rendre puissent trouver où déposer leurs armes et soient encadrés pour réduire, n'est-ce pas, la nuisance et aussi mettre fin à l'activisme des groupes armés dans la province. Nous savons que les deux phases, comme a dit l'actuel coordonnateur de PDDRCS, de DDR, n'ont pas désarmé tous les groupes armés en Ituri, par exemple. Nous avons le cas de FRPI, qui est resté depuis la deuxième phase de désarmement jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de ces éléments qui sont précatonnés, et nous croyons qu'à travers ces programmes, ça va nous être une solution pour récupérer toutes ces armes qui sont toujours létales. Comme autre défi, nous pensons que ce programme doit être un programme qui doit réellement travailler avec toute la force vive. Parfois, ça se dit facilement, mais dans la pratique, on vit autre chose. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, qu'on puisse arriver à ce qu'on a connu par les étapes antérieures. On a connu des ratés, et cette fois-ci, ça ne doit pas être le cas. S'il y a un travail d'ensemble, c'est possible que le programme puisse connaître des succès. Mais aussi, comme nous avons dit, nous ne souhaiterions pas que cette fois-ci, après ce programme, on parle encore de l'existence des groupes armés qui sont restés à travers la province. Donc, si le programme connaîtra l'implication de tout le monde, nous avons la conviction que ça peut nous amener à un résultat.
Voilà, un programme qui doit impliquer toutes les forces vives, comme vous venez de les souhaiter. Mais il y a cette société civile, hein, et vous en faites partie d'ailleurs, et qui n'a pas apprécié la nomination de M. Tommy Tamwe à la tête du DDRCS. Cette attitude de la société civile ne pourrait-elle pas constituer un handicap quant à l'accomplissement, n'est-ce pas, de la mission du nouveau coordonnateur du DDRCS?
Nous sommes parmi ceux-là qui pensent que dans ce monde, il n'y a pas d'essai. Donc chacun peut avoir des forces, chacun peut avoir ses faiblesses. État humain, tout le monde est appelé à changer. S'il y a des choses qu'on a reprochées au nouveau coordonnateur hier, je pense qu'il a l'intérêt de s'amender pour donner la chance à la réussite de la mission qui lui est confiée. Et aussi, nous savons dans ce pays, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été cités dans plusieurs dossiers, mais après certains temps, on les voit aussi changer. Qu'est-ce qui empêche que l'actuel coordonnateur puisse afficher autre attitude que ce qu'elle a passé hier? Donc moi, je crois à un changement, et le changement que je vois à lui, c'est qu'il est un être humain, il a une mission qui lui est accordée, et pour la réussite de cette mission, s'il y avait des choses qui lui étaient reprochées, il a l'intérêt de donner la chance pour la réussite de ce programme.
Oui, il est de notoriété publique qu'avant l'actuel DDRCS, il y a d'autres mécanismes sur lesquels on a tablé, et des mécanismes qui ont suscité, n'est-ce pas, beaucoup d'espoir, mais qui n'ont pas produit les résultats escomptés. Monsieur Dieudonné Lossa, quels sont, à votre avis, les atouts, n'est-ce pas, que le DDRCS a aujourd'hui et qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de réussir là où les précédents programmes ont échoué?
Ce sont justement les échecs des anciens programmes qui constituent un atout pour l'actuel programme. Le fait qu'il y a le programme STAREC n'a pas réussi, le programme UNPDDR n'a pas donné les résultats escomptés, à se baser sur les expériences de ces deux programmes, l'actuel programme peut déjà trouver la voie pour aller à relever ces failles qui étaient constatées. Et aussi, là où nous pensons qu'il y a la chance de réussir, c'est que tous ces groupes armés qui sont à l'Est, pour beaucoup de cas, ce sont des gens qui ont existé, qui sont restés dans les anciens programmes sans être assistés, et que si ces programmes tenaient compte de leur existence, les prenaient, les insérer dans leurs programmes, il y a possibilité d'arriver au résultat escompté à ces programmes.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Et quels sont, à votre avis, les défis à relever pour le nouveau coordonnateur du programme DDRCS?
Merci beaucoup, monsieur Guimaté. L'occasion que vous m'offrez pour échanger, je réciproque les mêmes salutations à Dieudonné, coordonnateur DDRC, pour sa présence d'abord au micro et pour cet échange que nous allons avoir ensemble. Je voudrais d'abord commencer par situer certaines choses ou donner certaines précisions. D'abord, le DDR n'est pas une fabrication de la République démocratique du Congo. Et donc, à travers tous les pays où il y a eu des crises, à travers le monde, le DDR a eu lieu. Et que le DDR possède des fondamentaux pour lesquels une mise à jour peut être observée lorsqu'on veut l'orienter dans un sens ou dans un autre. Et donc, un processus DDR fait partie du cadre plus large de transition de la guerre à la paix. Un programme DDR comprend donc une série d'actions limitées dans les temps et le désarmement, la démobilisation, comme on dit, la réintégration dans la société d'un groupe armé ou de groupes d'individus, mais de leurs partisans, des membres de leur famille, dans le but de rétablir le monopole de la violence de l'État. Et là, je souligne, c'est ce qu'il est recherché, le monopole de la violence de l'État. Sa réussite, donc, est un élément clé d'une transition efficace de la guerre civile vers une paix durable. Monsieur Guimaté, les DDR évoluent toujours en fonction du conflit et ne sont pas identiques, comme je viens de le dire, d'où la possibilité de leur mise à jour. Ça, c'est très fondamental. Et puis, il existe des standards intégrés. Là, j'ai beaucoup aimé quand les coordonnateurs parlaient. Des standards intégrés du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion qu'on appelle les IDRRS, qui constituent un référentiel d'enseignement, de bonnes pratiques, de bonnes orientations stratégiques qui s'appuient sur les expériences des acteurs du système des Nations Unies et des États et qui permettent pour cela de recueillir des enseignements tirés de l'expérience du passé pour fournir des lignes directrices. Là, j'ai beaucoup aimé encore lorsque les coordonnateurs parlaient. Il faut donc des conseils actualisés pour les praticiens et les planificateurs du DDR. Je souligne encore ce concept, il est très important, les planificateurs du DDR, les universitaires et les praticiens examinent de nombreux aspects du DDR, y compris l'efficacité et l'impact des programmes dans le but de mesurer le succès qui n'est pas facile. C'est donc une entreprise très difficile qui m'attend, car le processus DDR ne constitue qu'une partie du processus de paix globale. Il est souvent difficile d'attribuer un succès aux activités de DDR lorsqu'elles sont liées à d'autres initiatives et concertations de la paix. Bref, l'objectif du processus de DDR est de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans les environnements post-conflit afin que le rétablissement de la paix et le développement deviennent possibles.
Oui, il y a tous ces défis à relever. Nous parlions, n'est-ce pas, de la personne, de l'individu sur lequel on doit travailler afin de l'amener à changer de comportement et à accepter, n'est-ce pas, d'être réinséré dans la communauté. Ces individus qui ont un passé connu, qui ont eu à commettre des exactions pour des raisons diverses, mais qui doivent être, qui ont commis des exactions à l'endroit des membres d'une communauté et qui doivent être réinsérés, n'est-ce pas, dans cette même communauté. Comment, dans la pratique, les choses peuvent se passer, professeur Casimir Ngoumbi?
Extrêmement difficile. C'est là d'ailleurs que je vais aborder la question des défis de légitimité. Il est très difficile. Et d'ailleurs, la nature même telle que les coordonnateurs viennent de définir, que c'est exclusivement non militaire, moi je dis non. Il faut peut-être dire que c'est hybride. Parce que lorsque vous mettez la main sur des gens qui étaient habitués à prendre les armes et vous y allez d'un brebis, moi je crois que ça ne va pas marcher. Et donc il faut dire que c'est mixte et non. Non militaire, non, je ne crois pas. Donc, considérer que l'on désarme les personnes militaires et que l'on réinsère, on les réinsère dans leur propre communauté, c'est comme si on mettait les bourreaux devant leurs victimes une fois de plus sans avoir en amont préparer le terrain et je vais revenir là-dessus lorsque je vais parler des défis. Personnellement, j'ai peur, je trouve un peu de crainte pour que ces bureaux viennent être insérés comme ça directement et commencer à vivre, comme il a dit, dans une cohésion sociale, dans une communauté.
Oui, est-ce que ce n'est pas à cette étape-là qu'on doit, n'est-ce pas, évoquer cette justice transitionnelle qui est prônée par beaucoup de gens? Je sais que ce n'est pas dans les prérogatives du DDRCS, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà à évoquer la possibilité de cette justice transitionnelle parce que on doit accepter des gens qui ont à commettre certains actes dans ces communautés-là, il faut qu'on les accepte, ces gens doivent cohabiter avec leurs victimes, est-ce que il n'est pas opportun de commencer déjà à penser comment concevoir cette justice transitionnelle?
Ce que vous dites est vrai, mais malheureusement, cela n'est pas repris à ce que je sache dans les missions qui lui sont confiées. Et donc là, on risque de faire du méli-mélo et ça va retarder les choses et les moyens. Et comme vous venez de dire, ça risque de faire défaut. J'ai comme l'impression que ça sera extrêmement difficile. Pourquoi l'État ne peut pas créer d'autres services publics de l'État ailleurs et considérer tous ces démobilisés comme faisant partie d'une main-d'œuvre qu'on peut intégrer dans les autres services loin? Pas seulement des armes, mais loin de leurs victimes, comme ça, qui peuvent être facilement formés, comme ils ont parlé de formation professionnelle, loin de leurs victimes, ils peuvent être facilement intégrés dans le service public de l'État, loin de leur milieu d'origine, dans un premier temps, mais qui peuvent être insérés progressivement. Parce que nous allons voir que les motivations qui ont justifié la prise des armes par ces miliciens ne sont pas identiques à la paix. Il y en a qui ont pris des armes pour des revendications politiques, il y en a qui ont pris des armes pour des motifs de vengeance, il y en a qui ont pris des armes qui ont pris les goûts d'exploitation des ressources de matières premières et qui commencent déjà à faire beaucoup d'argent. Et ces messieurs-là voulaient donner $100 pour dire vous réintégrez votre milieu social, vous réintégrez votre communauté. Moi, je pense que quelque part, il faut un travail de fond en comble pour faire une sorte de correspondance entre les motivations pour ces miliciens. Les responsables des groupes armés à prendre des armes ainsi que les attentes qui sont les leurs pour ne pas faire un travail qui ne produira aucun résultat sur le terrain.
La cible ici, c'est les groupes armés locaux. Or, on sait qu'à côté de ces groupes, il y a des groupes armés étrangers. Et dans la pratique, ces groupes collaborent, ils sont interdépendants. Un autre défi, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à couper ces liens entre ces différents groupes armés. Et là, c'est le gouvernement qui doit intervenir à travers, n'est-ce pas, ses opérations militaires et aussi sa diplomatie. Vous pensez que dans les contextes du moment, les conditions sont réunies pour que ces défis soient relevés? Couper les liens entre les groupes armés locaux et étrangers?
Absolument pas, Guy Maté. Vous avez touché un problème très fondamental. Pour les groupes armés nationaux, ils ont leur communauté, ils ont leur village, ils ont leur regroupement, mais les non-congolais, les étrangers, vous allez les intégrer dans quelle communauté? Et c'est là où les bas blessent. Et ça sera très compliqué pour que sur nous, les étrangers qui n'ont pas de communauté pour être insérés, porteront énormément de problèmes. Pourquoi ils travaillent ensemble? Ils travaillent en réseau. Ils communiquent. Alors, comment faire ce travail-là? J'ai l'impression que quelque part, comme nous l'avons dit la fois passée, concernant l'état des sièges, le travail en amont devait d'abord être fait de manière précise, claire. Et ce travail en amont sur quoi? Booster d'abord le développement dans ces villages, en territoire dont il parle, ces espaces déjà occupés par les groupes armés, et réaliser ces infrastructures, j'ai beaucoup aimé, les routes, et booster le développement pour que l'on facilite le mouvement des populations. À ce moment-là, ce développement qu'on aura boosté constituera d'une manière ou d'une autre des activités d'attraction de ces miliciens qui sont en train de travailler dans la forêt, qui sont en train de tuer leurs frères, pour que les choses aillent normalement. Mais quand on fait l'inverse de choses, on veut les insérer ou les intégrer à la communauté, alors que ces communautés sont misérables aujourd'hui, c'est la pauvreté extrême, vous allez prendre quelqu'un à qui vous allez donner $200, $300 et vous lui demandez de rentrer dans sa communauté. Vous aurez un petit patron à côté de pauvres. Je ne vois pas, dans ma tête, ça ne passe pas. Comment cela peut-il se faire? Mais aussi,
un travail d'aménagement du territoire. Il n'y a pas de plan directeur d'aménagement de ces contrées-là. Où on saura, parce que quand on a parlé de la tutelle du président de la République, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai comme l'impression que la tutelle doit être interministérielle. Le plan, la défense, l'aménagement du territoire et d'autres ministères, et qui pratiquement pourrait résoudre dans le plus proche délai les questions pendantes et permettre aussi une organisation sociale ou la résolution des attentes qui sont prioritaires dans ce milieu.
Merci. Nous allons passer maintenant aux réactions des auditeurs qui sont en train d'appeler. Ils appellent pour contribuer à ce débat. Monsieur Tommy Tamboué, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
C'est Farel Malassa depuis Kinshasa. La population a toujours fait confiance à ses représentants. Mais il arrive que ces derniers se détournent de la bonne voie pour faire autre chose que la norme sociétale. Il est vrai que cette institution doit jouer un rôle communautaire et son objectif reste celui d'insérer les ex-combattants dans la société. Ce que le peuple congolais aime en général et en particulier ceux de l'Est, c'est la paix, rien que la paix. Vous avez une tâche lourde à accomplir, mais avec l'accompagnement de la population, vous allez réussir. Même si les autres voient déjà l'échec à la personne nommée.
Monsieur Tommy Tamboué.
Merci beaucoup. J'apprécie à juste titre l'intervention de cet auditeur. Je crois qu'il a la lecture de tout ce qui se passe. La population, effectivement, a besoin de la paix. Et c'est pour cette paix recherchée que le chef de l'État a mis en place ce programme. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Avant d'évoluer, M. Guimaté, lorsque nous faisons l'analyse du programme UEPDDR, STAREC, deux éléments importants ont manqué à ce programme. Le premier, c'est le souci de tout le monde. C'est la dépendance presque totale des fonds de l'extérieur. Dépendre de partenaires, de bailleurs extérieurs. Et ça a été un des problèmes majeurs qui ont fait obstacle à la réalisation de ce programme. La plupart de ces programmes, une fois les fonds terminés, alloués par la Banque mondiale et l'Union européenne, terminés, le programme s'arrête. Mais aujourd'hui, le PDDRCS, il y a des innovations tirées de ses faiblesses.
On ne doit plus être dépendant totalement des fonds des partenaires extérieurs. Pas dépendant totalement.
Le chef de l'État veut démarrer ce programme avec les moyens locaux et du gouvernement. Deuxièmement, le chef de l'État voudrait l'implication de tous les acteurs. Il y a une question qui a été posée par le professeur, c'est une question très fondamentale. Dans ce programme, lorsque nous parlons de la stabilité, nous voyons la gouvernance sécuritaire, les questions de l'armée, les questions de la police, des services de sécurité. Ces questions-là, il a dit, il faut un programme qui est presque intégré. Et c'est là la nouveauté ou l'innovation. Le comité de pilotage est dirigé par le chef de l'État, et assisté par le premier ministre, chef du gouvernement, mais il y a à peu près 10 ministères qui font partie du comité de pilotage.
Et donc, on a tiré les leçons du passé.
On a tiré les leçons.
Merci, Monsieur Didonné Lossa. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Mahagi, en Ituri.
Adoubango Didonné JP, depuis Mahagi, dans la province de l'Ituri. Nous saluons la matérialisation du programme DDRCS, bien que cela a pris un peu de temps, pendant que sur terrain, les choses se dégradent davantage. À mon humble avis, le nouveau coordonnateur a l'obligation, premièrement, de gagner la confiance de la population de l'Est avant de se lancer dans les processus, car nul n'ignore qu'il y a eu des contestations de sa personne à la tête du programme, vu son passé, selon certains rapports. Mais aussi impliquer la communauté cible dans les processus pour éviter l'exclusion des uns et des autres également dans le but de bien garantir la pacification durable, avis également d'éviter de tomber dans l'erreur du passé, car nul n'ignore que le passé a été sombre. Le gouvernement central également a l'obligation de fournir tous les moyens nécessaires pour garantir la paix durable en République démocratique du Congo.
Didonné Lossa, votre réaction?
Oui, je disais que l'auditeur nous suit très bien. Nous avions dit la même chose presque avec lui, qu'on doit impliquer tout le monde pour la réussite des processus. ce programme plutôt. Ça ne peut pas réussir s'il n'y a pas l'implication de tout le monde. Je ne pense pas qu'il faut aller avec des particularités pour dire seulement les communautés impliquées. Tout le monde est impliqué dans ce que nous vivons ici. Parce que tout le monde est impacté. Il n'y a pas une communauté qui n'est pas impactée par rapport à ces conflits à l'Est. Donc tous ceux qui sont à l'Est, ils sont concernés par ces programmes et ils doivent être impliqués. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je crois aussi par rapport à la question de confiance, c'est la manière dont il va travailler. S'il peut travailler différemment de ce que les gens attendent de lui, je crois que c'est la façon de gagner la confiance. Comment il pourra gagner la confiance alors qu'il n'est pas à cause opérationnelle? C'est dans la manière dont il va procéder pour aborder la question, pour traiter les différents problèmes qui sont posés. C'est cela qui va renouveler la confiance à sa personne.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Il y a Maître Galidor Mampouya qui nous appelle depuis Kananga au Kasaï Central et qui dit que le mécanisme en soi est salutaire au regard de l'ampleur du phénomène des milices et des groupes, surtout dans la partie est de la RDC. Et malheureusement, il y a eu par le passé beaucoup de programmes qui ont été institués pour se faire, mais et qui ont accouché d'une souris et qui n'ont fait qu'empirer la situation sur des terrains. C'est pourquoi le nouveau coordonnateur a beaucoup de défis à relever, entre autres, commencer par se désolidariser avec son passé pour inspirer confiance à la population. Et le gouvernement doit mettre les moyens conséquents, car nous assistons aux redditions les matins et les soirs et aux défections suite aux mauvaises conditions d'hébergement. Professeur Casimir Ngoumbi.
Merci beaucoup, M. Valiste. Je crois que je ne peux que aborder la situation dans le même ordre d'idée. C'est vrai que dans le pays, il y a beaucoup de compatriotes, miliciens, des groupes armés qui ont déposé les armes. C'est vrai, mais alors il faudra que le budget de l'État soit conséquent. Donc il ne faut pas qu'on abandonne le nouveau coordonnateur. Il vient de parler d'une question fondamentale, j'ai aimé ça, il y a plusieurs ministères. Et c'est pourquoi je propose même que cette tutelle soit interministérielle, que le président contrôle les choses telles qu'il se fait. Il se fait sur le terrain pour éviter d'être trop encombré. Mais en même temps, je crois, avis aussi, qu'il faut éviter de dire que la RDC n'aura pas besoin de soutien extérieur, parce que là, je considère que c'est de l'aménagement territorial, cet espace, c'est de ces différentes contrées qui coûtent extrêmement beaucoup d'argent. Et la RDC, à ce que je fasse, bataille l'argent pour pouvoir réaliser cela. Et je crois qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai appris que la Banque mondiale aurait donné déjà 50 millions pour le projet. Et dans ce cas-là, il faudra que le président de la République continue avec la diplomatie dans ce sens que éviter qu'il évolue en solo et que lui-même, les coordonnateurs, évolue en solo, mais que la coopération au niveau d'autres acteurs internationaux soit beaucoup plus présente au niveau de son travail qu'il va faire. C'est un travail âpre, c'est pas un petit travail. Et donc, lui-même, d'ailleurs, moi-même ici, en tant que politologue, j'ai pitié de lui, je sais ce qu'il va faire. Je voudrais terminer en disant que sa personne, peu importe, moi je crois que le Dieudonné a donné la question. Je crois qu'aller tout de suite là en besogne pour commencer déjà à évaluer les coordonnateurs serait une imprudence. Nous sommes les premiers, voyons comment il va naviguer et nous serons là tous. On le soutient dans un premier temps à travers les réflexions et c'est ce que Radio Capi fait. Tous les jours, accompagner toutes ces nouvelles structures qui naissent pour que chacun sache exactement ce qu'il doit faire pour éviter l'échec.
Merci Emmanuel Tommy Tamwe. Que recommandez-vous à vos partenaires pour que votre mission permette au pays de dégonfler les groupes armés et à la longue mettre fin à l'activisme de ces groupes armés afin, comme l'a dit le professeur Casimir Ngoumbi, de rétablir, n'est-ce pas, le monopole de la violence de l'État?
Merci beaucoup. Une précision de taille est très utile. Lorsque je parlais de financement, j'ai parlé des anciens programmes qui ont eu à dépendre totalement de l'aide extérieure. Et une fois l'aide extérieure terminée, on ferme le bureau, les agents restent 20 mois sans être payés. Ça, ce sont les leçons tirées.
Et ça ne sera plus de cas.
Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit, ok, même si les bailleurs de fonds, ils sont là, et nous sommes en bon terme avec eux, nous sommes déjà en pourparlers avec eux, mais comme vous le savez, les fonds des bailleurs, ça ne vient pas automatiquement. Maintenant que le programme est là, nous sommes en train de négocier maintenant avec les partenaires. Hier déjà, nous étions avec la MONUSCO et tout le système des Nations Unies en train d'évaluer par où nous commençons. Mais entre-temps, il y a des besoins qui se font déjà attendre sur le terrain. Et vous avez dit ici, il y a déjà des rendis. Et ces rendis-là, doivent-ils attendre le financement ou le gouvernement doit intervenir? C'est comme ça que j'ai dit, le chef de l'État a dit, démarrons avec ce que nous avons. Le temps que les autres partenaires arrivent et nous accompagnent. Les recommandations à tous les partenaires. Comme j'ai dit tantôt, nous sommes très souples, mais également, nous sommes en train de travailler. Et nous avons ouvert nos bras à tous les acteurs et de la société civile, les professeurs d'université, les confessions religieuses, les députés, les chefs coutumistes, chacun selon son pouvoir. Parce que la question de la paix, de la sécurité à l'Est, c'est une question vitale. Nous pouvons tout faire. J'ai même vu pendant 20 ans, certains villages sont désertés. Le progrès que nous avons connu en RDC a reculé sérieusement à cause de l'insécurité. C'est le moment où nous appelons tout le monde. Nous savons que dans cette affaire de groupes armés, il y a tout. Il y a également des gens qui ne souhaitent pas avoir la paix parce qu'ils ont des intérêts liés à ce conflit.
Un message en Swahili à l'endroit de tous ces miliciens qui sont encore réticents, hein, qui ne savent pas est-ce qu'il faut prendre la décision de quitter les groupes armés pour adhérer à ces mécanismes DDRCS ou s'il faut, il faut rester dans ces groupes armés. Un message à l'endroit de tous ces miliciens en Swahili.
Ndugu zangu, wote ambao mmeshika silaha, ambao muna kuwa mnajiita wapambanaji, mnachukua majina kadhalika, walinzi, na wengine wanajiita kuwa wanapigania uhuru wa nchi yao, nyinyi wote ambao mnakuwa na silaha, ninajua kwamba kila kitu kinakuwa na muda wake. Kuna muda wa kuwa na silaha, kuna muda wa kushika silaha, na pia kuna muda wa kuweka silaha chini. Kuna muda wa amani na kuna muda wa vita. Muda huu ni muda wa kutafuta kupata amani kwa watu wote. Ndio maana ninawaalika nyote ambako kwenye muko kwenye vijiji, kwenye milima, kwenye mabonde, ambao muko na silaha, ambao muko kwenye magenge ambayo inashika silaha, muda ndio huu. Tuko tayari, serikali imeamua kuwashindikiza na kuwatayarishia maisha bora, na ndio maana tunawaita, tunasisitiza tukisema muda mzuri ni huu ambao wa kuboresha amani, ulinzi na maendeleo ya vijiji vyetu. Njoni nyote, tafadhali, tafadhali, nyinyi nyote muje, basi tujiunge na serikali ili tuweze kuendesha nchi yetu. Asante.
Merci monsieur Dieudonné Le Saul, votre mot de la fin.
Nous disons au programme de travailler vraiment dans le souci de redonner la paix à la province, parce que notre province est parmi les provinces qui ont souffert, et que à travers ces programmes qu'on aspire réellement à la paix dont on a besoin. Nous ne pensons pas qu'après ces programmes, il doit exister encore un groupe armé récidive à Ituri. Et pour y arriver, c'est l'apport de tout le monde, l'implication de tout le monde s'avère nécessaire.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Votre conclusion?
Ma conclusion, je espère que le gouvernement de la République d'Afrique, ces projets, cette structure qui sont créés, n'embrasse pas tout. Et si tel est le cas, qui tombe s'embrasse, mal écrit.
Merci, merci au professeur Casimir Ngoumbi, à M. Dieudonné Le Saul, à M. Tony Tamboué Oshindi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga qui était la technique. Merci à Donna Madimba, Kéline Kouté et à Michel Outete qui m'ont aidé à réaliser cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.